Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Cohabiter avec les dinosaures, pas si simple me direz-vous, et pourtant nous vivons aujourd'hui avec quelques spécimens considérés comme tels, les oiseaux, les crocodiles ou encore les requins. Mais il est vrai que dans notre imaginaire, les dinosaures sont les gentils diplodocus, les tricératops cornus ou le dangereux Tyrannosaurus rex, T-rex pour les intimes. Mais alors comment vivait-on à leur côté et quelles sont les hypothèses qui expliquent à ce jour une extinction massive de la plupart des dinosaures il y a 65 millions d'années et parallèlement d'autres espèces et notamment des mammifères qui cohabitaient avec eux, qui eux sont restés vivants. Autant de questions que nous allons poser à notre invité Philippe Taquet. Philippe Taquet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, paléontologue réputé, auteur notamment de L'empreinte des dinosaures, réédité en 2001 chez Odile Jacob. Et vous êtes également l'un des commissaires scientifiques de l'exposition « Dans l'ombre des dinosaures » qui se déroule du 14 avril 2010 au 11 février 2011 au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Alors commençons par planter un peu le décor, Philippe Taquet, en votre compagnie. Quel était l'environnement des dinosaures peu avant ce qu'on appelle maintenant la crise ?
Bien, comme le titre l'indique, l'exposition s'intitule « Dans l'ombre des dinosaures ». Les dinosaures sont dans la lumière très souvent dans beaucoup d'expositions, mais au fond, nous voulons profiter de leur popularité pour camper le décor de la fin de l'ère secondaire, du Mésozoïque, expliquer au public ce qui se passe à ce moment-là et ce qui va se passer et quels sont les résultats des événements de la fin du Crétacé, leur retentissement sur la planète, la faune, la flore et l'environnement qui nous entoure aujourd'hui et qui est une directe conséquence des événements du passé, bien sûr. Dans l'ombre des dinosaures, c'est parce que, comme le dit Pierre Léna, qui est astronome aussi, académicien, de même que les planètes sont un très bon moyen d'aborder des questions plus générales, eh bien, les dinosaures sont un excellent moyen d'aborder des questions plus générales, c'est-à-dire la naissance, l'extension et la disparition des espèces, les durées des temps géologiques, le sort de la vie sur Terre. Et si on s'interroge sur toutes ces questions plus générales, c'est parce qu'on s'interroge sur nous-mêmes, sur notre espèce et sur son futur. Alors, le décor de la fin du Crétacé, c'est-à-dire d'il y a à peu près 75 millions d'années à 65 millions d'années, c'est une planète dont les continents ne sont pas dans les positions qu'ils occupent aujourd'hui, mais quand même assez proches. L'océan Atlantique existe, et l'Afrique est séparée de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord séparée de l'Europe. Mais encore, il y a encore des contacts assez étroits, en particulier entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Australie et l'Amérique du Sud, via l'Antarctique. Bref, une géographie un peu différente de celle d'aujourd'hui, un climat assez chaud, tropical, assez humide, qui favorise évidemment beaucoup l'expansion des grands reptiles, qui aiment la chaleur et l'humidité. Et donc ce monde du Crétacé supérieur est peuplé de formes assez extraordinaire, très grande. Vous avez fait allusion tout à l'heure au Tyrannosaurus rex, si célèbre, mais l'exposition va montrer que ce monde, en réalité, dont on a des images très classiques, est beaucoup plus diversifié qu'on ne l'imagine. Et on va, pour la première fois, montrer à Paris des dinosaures qui viennent d'ailleurs, en particulier de Chine, d'Amérique du Sud, avec des grands carnivores, comme le Carnotaurus, qui est argentin ou patagon, trouvé dans l'extrême sud de l'hémisphère austral. Et voilà donc d'abord une présentation d'une faune extrêmement diversifiée au Crétacé supérieur, où les dinosaures d'Amérique du Nord ne sont pas les mêmes que ceux d'Afrique. Ceux d'Amérique du Sud ne sont pas les mêmes que ceux de Chine. Donc un paysage beaucoup plus varié que le public ne le croit. Et puis, à côté de ce monde foisonnant des dinosaures, un monde tout aussi foisonnant et peu connu, et c'est pourquoi l'exposition est intéressante, c'est celle des petits mammifères qui ont une longue histoire, discrète, mais fondamentale, et qui vont donner, après la disparition des dinosaures, au cours d'une crise très fameuse dont on va parler, bien toutes les lignées de mammifères que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce monde-là, il est moins connu, avec les flores d'insectes, de plantes, de pollen, de tout ce qui entoure la vie à cette époque-là, c'est cela qui va être développé à côté des dinosaures, donc dans l'ombre des dinosaures.
Arrêtons-nous quelques instants sur certains dinosaures qui sont présentés au cours de cette exposition. notamment Bambiraptor. Alors je trouve le nom assez sympathique. Quelle est la forme qu'on peut donner à Bambiraptor?
Oui, ben en fait, dans les collègues américains qui ont voulu décrire et décrit ce dinosaure que je connais, parce qu'il était trouvé dans le Montana, si je ne m'abuse, eh bien, cet animal, ou dans l'Utah, en tout cas en Amérique du Nord, ce petit dinosaure, en effet Bambi parce qu'il est petit, et qu'il a l'air mignon comme cela, mais il est raptor, Bambiraptor, c'est-à-dire qu'il est féroce et que c'est un petit carnivore absolument redoutable qui devait sauter sur le dos de ses victimes pour les dépecer. Et on a là un animal carnivore parfaitement adapté, un prédateur. Disons, dans la nature aujourd'hui, on pourrait comparer ce genre d'animal à un guépard très agile, très rapide et très agressif.
Et à plumes alors, un animal à plumes, petit animal.
Alors voilà, le côté passionnant de ces dinosaures, de certains des dinosaures du Crétacé supérieur, c'est que, et on le sait il n'y a pas si longtemps maintenant, que les dinosaures sont considérés aujourd'hui, avec beaucoup d'arguments favorables, comme les ancêtres des oiseaux. Et que l'écaille du reptile, qui est faite de kératine, un peu comme nos ongles, nos cheveux, et cette kératine qui est la même molécule, la même substance, on sait qu'elle peut se fragmenter en filaments très fins pour donner des plumes. C'est la même chose. La plume, c'est de la kératine. Et au fond, même Étienne Wolff, qui a fait partie de notre compagnie il y a quelques années, un célèbre embryologiste, était au Collège de France, expérimenté sur les pattes des poulets et l'embryologie du poulet. En injectant dans les embryons de poulet les œufs de l'acide rétinoïque, il était capable de faire pousser des plumes sur les écailles des pattes des oiseaux. Et donc, on passait assez bien de l'un à l'autre. Alors, la plume apparaît dès les dinosaures, très certainement. On en a des preuves, on a des fossiles de dinosaures à plumes. Et elle apparaît pas du tout pour le vol, mais pour des raisons de régulation thermique, pour isoler le corps de l'animal, puisque le reptile avec ses écailles est soumis aux fluctuations de la température extérieure, naturellement. Ils sont poikilothermes, pour utiliser un terme très savant. Alors que nous sommes, nous mammifères, des homéothermes. Notre température est régulée à 37 degrés pour ce qui est de l'homme. Les reptiles, pas du tout, doivent lézarder, c'est le mot, au soleil pour se réchauffer le matin et être très actifs. Ce qui est un inconvénient, parce que tant qu'on est froid, on n'est pas très agile. Et même pendant l'hiver, les reptiles, dans les zones tempérées que nous connaissons, sont obligés d'hiberner et de se cacher dans le sol, comme les vipères ou les lézards. Alors, à l'époque du Crétacé supérieur, la température était favorable. Mais si le climat se refroidit, ce qui s'est passé à la fin du Crétacé, alors il est intéressant d'avoir une couverture du duvet pour garder la chaleur.
Restons dans le domaine des plumes, et notamment avec les oiseaux. À cette époque du Crétacé, il y a les oiseaux dinosaures et des oiseaux qui ne le sont pas dinosaures. Alors comment on différencie les deux?
C'est très difficile. Aujourd'hui, enfin, on différencie le vol classiquement entre ceux qui avaient des ailes pour voler, c'est le cas de l'archéoptérix qui apparaît et qu'on connaît dans les couches du Jurassique supérieur, c'est-à-dire il y a 140 millions d'années, ce qui montre que les oiseaux ont quand même une grande ancienneté, même probablement plus ancienne. Il est déjà un oiseau assez élaboré, même s'il a encore des dents et s'il a encore une queue garnie de vertèbres. Il a des plumes et des plumes assez perfectionnées et il était probablement capable de volter, en tout cas de planer, mais de volter d'arbre en arbre. Et donc, dans tout le Crétacé supérieur, il y a des oiseaux capables de voler. Et il y a des dinosaures qui, eux, gambadent sur le sol, qui ont des avant-bras garnis de griffes et de membres antérieurs, qui ne volent pas. Mais comme on sait aujourd'hui que certains oiseaux qui ont volé, secondairement, ont perdu la capacité du vol, c'est le cas des autruches, des nandous et des émeus, qu'on appelle les ratites, on peut se poser la question de savoir si au Crétacé, il n'y avait pas déjà des oiseaux redevenus coureurs s'envoler secondairement, et alors il devient très difficile de les distinguer des dinosaures coureurs à plumes.
Et alors justement, parlons du pteranodon. Pour le coup, lui, quelle est sa position? Est-ce qu'il va repasser petit à petit vers la marche? Puisqu'en fait, avec ses ailes, il a des petits coudes, je ne sais pas si c'est le terme approprié, qui fait que quand il est sur le sol, il marche à quatre pattes.
Le pteranodon, alors c'est là où il ne faut pas faire de confusion, est un reptile volant. Et donc il n'a aucun rapport avec les oiseaux. À l'époque, il y avait donc ces dinosaures, aviens, il y avait les oiseaux déjà capables de voler, et il y avait dans les cieux autre chose qui était les reptiles volants. Et Georges Cuvier a eu le grand honneur et la qualité de décrire le premier reptile volant jamais découvert, sous le nom de ptérodactyle, l'animal qui a des doigts au bout des ailes, d'après un fossile trouvé dans le Jurassique supérieur de Bavière et qui était conservé dans une collection à l'époque en Allemagne. D'après la simple gravure, Cuvier a été capable, en bon anatomiste, de reconnaître que l'animal était un petit reptile, alors qu'on l'avait pris pour une chauve-souris ou pour un oiseau, quand pas du tout l'anatomie de cet animal est celle d'un reptile. L'articulation de la mandibule sur le crâne se fait par un os qu'on appelle le carré, et c'est donc une caractéristique de reptile, et qu'il avait des dents sur ses mandibules, et qu'on avait affaire à un animal, et c'est un paradoxe, reptile ça veut dire ramper, mais capable de voler, et dont les bras ont une phalange qui est un doigt allongé en plusieurs phalanges capable de porter une aile. Cuvier était le premier à montrer qu'il y avait des reptiles volants dans les fossiles, les espèces éteintes. Et après, on a trouvé beaucoup de formes, en particulier ces fameux pteranodons dont vous parlez, qui sont des formes du Crétacé supérieur, très grandes, capables de planer, qui s'accrochaient aux falaises, et qui étaient, eux, probablement avec un corps penseton recouvert de poils. Et alors, la caractéristique de ces reptiles volants, et il y a en France un site très célèbre, qui a été décrit par un paléontologue français, Jean-Michel Mazin, avec un collègue américain, Kevin Padian, qui est très associé à l'Académie des sciences, où une plage fossile à Cressac, dans le sud-ouest de la France, eh bien, on a trouvé des empreintes de reptiles volants en train de se poser, une piste d'atterrissage de reptiles volants, ce qui est absolument unique au monde, et on voit les empreintes d'animal qui a dû se poser, faire quelques bonds avant de se stabiliser et de se mettre à marcher, probablement, comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, sur les coudes. Mais on a affaire là à des reptiles.
Alors, restons sur les reptiles, reptiles rampants cette fois-ci. Ce spécimen ne figure pas dans l'exposition à proprement parler, mais elle figure dans la grande galerie de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle, spécimen que vous avez découvert, qui porte le nom de Sarcosuchus imperator, oui. Et qui est un crocodile, mais un gigantesque crocodile, découvert en 1966. Dans quel contexte avez-vous découvert ce spécimen et pourquoi lui avoir donné ce nom ?
Voilà, ce crocodile est gigantesque et géant. Il est un peu plus ancien, en effet, que la période que nous traitons dans l'exposition. Il est du Crétacé inférieur, c'est-à-dire qu'il est âgé de 100-110 millions d'années. Donc il précède un peu tous ces grands dinosaures et crocodiles de la fin du Crétacé. Eh bien, j'ai eu la chance, en allant au Niger en 1965, pour la première fois, à l'invitation de chercheurs d'uranium, géologues français, qui prospectaient le désert du Ténéré pour retrouver des substances minérales utiles. Et d'ailleurs, ils en ont découvert. Le Niger est un gros producteur d'uranium aujourd'hui. Eh bien, ils ont trouvé, dans un endroit complètement éloigné de toute ville, sur le sol, dégagé par le vent de sable, des ossements fossiles dans grande quantité, dans des couches du Crétacé. Alors j'ai été invité comme expert, mais j'étais jeune étudiant à l'époque, et ça a été mon premier grand voyage en Afrique où je n'étais jamais allé. Et je suis arrivé en janvier 1965, tout seul, invité par ces géologues, et qui m'ont amené sur un gisement absolument fabuleux, où sur 150 km de long et 2 km de large se trouvaient des dizaines de squelettes de dinosaures et des crocodiles d'une taille impressionnante, puisque dès la première mission, nous avions vu un crâne de crocodile dont la longueur, à elle seule, était de 1,70 m de longueur. Et vous voyez, je mesure 1,78 m. La tête du crocodile était aussi grande que ma taille. Et j'ai ramené ce spécimen extraordinaire à Paris, où il a été étudié avec une de mes collègues, France Delaparent, qui était la nièce d'un géologue célèbre, professeur à l'Institut catholique, qui, quelques années auparavant, lors de ses explorations sahariennes, avait trouvé dans le sud algérien un morceau d'un crocodile géant dans les déblais d'un canal d'irrigation d'eau au sud de la ville de Timimoun, dans le Sahara algérien. Il avait ramené ce morceau à sa nièce, qui était paléontologue, qui faisait ses études en même temps que moi, nous étions de la même promotion, et elle avait fait un petit travail sur ce crocodile mystérieux qu'on appelait le crocodile d'Aoulef. Et voilà que moi, j'arrivais à Paris avec un crâne entier de la même espèce. Alors nous nous sommes mis ensemble pour décrire évidemment le gros morceau, mais surtout le crâne complet, et on a eu l'idée de le baptiser du nom de Sarcosuchus imperator. Imperator parce qu'il était tellement grand, on a considéré que c'était l'empereur des crocodiles. Sucus en grec, c'est crocodile, c'est la racine grecque de crocodile. Et sarco, de sarcophage. Sarco, ça veut dire chair. n'est-ce pas ? Et donc, c'était le crocodile vivant de chair, l'empereur des crocodiles vivants, bien en chair. Et ce nom était publié dans une note à l'Académie des sciences. J'étais jeune chercheur à l'époque, et elle est évidemment encore citée partout aujourd'hui, puisque c'est l'acte de naissance de ce nouveau crocodile géant, dont on a ensuite trouvé des squelettes assez complets. Et en 1973, nous avons récolté, dans des conditions difficiles, parce que le pays était avec beaucoup de vent de sable qui soufflait au ras du sol, donc fouiller c'était un peu difficile, il fallait des lunettes pour se protéger du vent de sable. Nous avons récolté un squelette entier, et dont la longueur approximativement est de 10 à 11 mètres de long, le plus grand des crocodiles jamais découvert, que mes amis américains appellent Super Croc.
Un Super Croc que l'on peut donc voir maintenant à la galerie de paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle.
Voilà, et qui a été étudié, dégagé pendant de longues années par des amateurs, et il faut le dire, par des bénévoles de la Société amicale des géologues amateurs, qui travaillent beaucoup en relation avec les chercheurs du musée, et qui, lorsqu'ils avaient du temps, venaient nous aider à sortir de sa gangue de pierres. Chacun des ossements de cet animal, il y en a 186, il y a toutes les plaques du dos, toutes les plaques du ventre, dont c'était un travail considérable, et ils nous ont beaucoup aidés. Et là maintenant, cette présentation consiste à avoir mis toutes ces pièces sur des armatures métalliques qui épousent la forme du corps et qui lui donnent un aspect, on peut dire un peu, qu'on lui redonne un peu la vie de cette façon. Mais c'est un animal fantastique au crâne allongé dont on peut dire qu'il était piscivore, c'est-à-dire mangeur de poissons. Et comme dans le même gisement, j'ai trouvé des dinosaures à museau long et étroit aussi, dans une note que j'ai publiée à l'Académie des sciences aussi, j'étais le premier à montrer à cette époque-là qu'il y avait probablement des dinosaures carnivore, certes, mais mangeur de poissons. Et j'étais le premier à écrire cela, juste avant que les Anglais ne trouvent un squelette assez complet d'un animal aussi carnivore, piscivore. Donc j'étais très fier de cette découverte. Et ils se battaient probablement avec les dinosaures mangeurs de poissons pour attraper les énormes poissons qui se trouvaient dans les grands fleuves de l'époque.
Alors justement, passons de ces reptiles rampants aux poissons. Quelles sont les grandes découvertes à ce jour sur ces poissons de l'époque du Crétacé supérieur ?
Alors, dans le Crétacé supérieur, la faune de poissons est très diversifiée. Il y a encore des formes assez ancestrales comme des sélacanthes. On connaît beaucoup de sélacanthes et j'en ai trouvé quelques-uns. Et le Crétacé inférieur s'appelle Mossonia. Il y en a jusque pendant toute la période du Crétacé. Et puis, il y a d'énormes poissons d'une famille qu'on appelle les sémionotidés qui ont des énormes écailles dont la partie extérieure est garnie d'émail et d'ivoire, on dirait, de ganoïne, on dit. Et ces écailles sont très solides, très résistantes pour protéger les poissons, mais ça ne les empêche pas. Je ne sais pas, de se faire dévorer par les crocodiles et les dinosaures, par Super Croc et par les dinosaures piscivores. Et puis se différencie toute une faune de poissons qu'on, d'ailleurs, on trouve dans le pourtour méditerranéen. Par exemple, au Liban, il y a des faunes de poissons absolument magnifiques du Crétacé. La faune est déjà très diversifiée. Et on a une partie des poissons qui sont très proches des familles de poissons qui vivent aujourd'hui dans les mers, en particulier en Méditerranée ou dans les mers tropicales.
Revenons, si vous le voulez bien, à l'ombre des dinosaures et de ces petits mammifères qui coexistent avec ces dinosaures. J'imagine qu'il est beaucoup plus difficile de retrouver des restes de ces petits mammifères. De quoi on dispose ? Sur quoi on travaille ? À partir de petites dents de musaraignes, par exemple ?
Oui, c'est ce que va montrer justement d'une façon assez agréable et intéressante l'exposition. C'est le travail nécessaire pour trouver des petits mammifères dont les crânes sont minuscules, quelques centimètres, et dont les dents sont encore plus petites, de quelques millimètres, ou même moins d'un millimètre. Et les paléomammalogistes ont des techniques tout à fait particulières pour chercher ces petites bêtes, chercher des aiguilles dans des bottes de foin, c'est-à-dire des dents dans des quantités énormes de tonnes de sédiments, en général des sables ou quelquefois des argiles ou des lignites, et d'essayer de les retrouver. Pour cela, et l'expo va le montrer, il faut tamiser des tonnes et des tonnes de sédiments dans des tamis à mailles variables pour éliminer ce qui est uniquement constitué de grains de sable ou d'éléments minéraux et trier parmi ces tonnes de sédiments les petites dents, quelquefois les mandibules fragmentaires, quelquefois complètes, les petites dents qui les intéressent. C'est un travail de patience absolument incroyable. Le travail est surtout mécanique, mais ils peuvent être il peut être chimique. On peut aussi utiliser des méthodes chimiques pour éliminer des gangues plus calcaires. Et même, nous avions un appareil aussi de flottation par flottation différentielle pour séparer les grains de quartz des petites dents de mammifères qui sont très denses et qui tombent au fond des bacs dans des centrifugeuses. Mais les paléomammalogistes arrivent à extraire des sédiments des toutes petites dents. Mais il y a des sites aussi où on trouve des crânes entiers et des squelettes entiers de petits mammifères du Mésozoïque. C'est le cas. Et peu à peu, l'image que l'on a de l'évolution des petits mammifères de l'époque se précise, avec des mammifères dont certains sont très différents des mammifères d'aujourd'hui. Ils ressemblent en effet à des musaraignes, au point de vue dimension, mais certains sont des multituberculés, avec des petites dents arrondies, capables de broyer et d'écraser des graines. Ils sont granivores. Et puis d'autres, comme des musaraignes, avec des cimétrodontes, des familles comme ça, qui, elles, sont insectivores, très probablement, avec des dents très pointues, probablement très efficaces, si on les met à la proportion d'une dent de dinosaure. Évidemment, on s'aperçoit que ce sont des outils sûrement très performants. Ces petits animaux étaient discrets, probablement certains étaient nocturnes, mais maintenant, on connaît énormément de familles, et on a une assez bonne idée de l'histoire des mammifères, ce que l'exposition va montrer en détail.
Ces petits mammifères, est-ce qu'ils étaient des gardes mangés sur pattes pour les dinosaures carnivores? Quels étaient dans l'écosystème leur place? Quelle était leur place
dans l'écosystème? Certains devaient en effet craindre les petits raptors ou les lézards ou les crocodiles, avaient sûrement la possibilité de se réfugier dans des terriers, comme le font beaucoup de mammifères et de petits mammifères aujourd'hui, ou d'avoir une vie nocturne, ce qui est aussi un avantage. Et ils avaient en effet comme ennemis probables des dinosaures ou des reptiles de toutes sortes. Mais on a découvert récemment, en Chine, dans des couches du Crétacé inférieur, un petit mammifère qui n'est pas si petit que ça, qui avait déjà la taille d'un chien, et dans lequel on a trouvé, dans l'estomac duquel on a trouvé, fossilisé, puisqu'on a trouvé le squelette entier, un petit bébé protocératops, c'est-à-dire d'un petit animal, un petit dinosaure qui s'est fait dévorer, lui, par le mammifère. Donc la réciproque était vraie. Et à partir d'un certain stade, et probablement au Crétacé supérieur, les mammifères, certains d'entre eux, ont dû devenir des concurrents sérieux des fameux dinosaures, ce que justement l'exposition probablement dira. Et ça, c'est assez nouveau et c'est assez intéressant. Et donc, dans la pyramide écologique, les mammifères avaient aussi éventuellement quelques avantages. Ils allaient peut-être aussi discrètement dévorer les œufs des dinosaures quand ils le pouvaient dans leur nid, parce que des œufs, c'est une source de protéines formidable. Et on sait en Afrique aujourd'hui, par exemple, que les œufs de crocodile, les œufs de varan, de lézard, sont très prisés par tout le reste de la faune prédatrice, les oiseaux, etc. Parce que, d'un seul coup, quand on trouve un œuf d'autruche, par exemple, c'est une source de protéines formidable. Donc, c'est très demandé.
Venons-en justement à cette période de crise. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a certainement eu plusieurs éléments qui ont favorisé cette extinction des dinosaures. Certainement, il y a des éruptions volcaniques sur la très longue durée. C'est en tout cas la thèse de Vincent Courtillot, votre confrère. Peut-être la fameuse météorite que l'on situe maintenant vers le Mexique. Et puis, quelles seraient les autres hypothèses qui pourraient entrer en ligne ?
Mais ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on a la chance en France d'avoir, je dirais, sous la main les spécialistes de toutes ces questions que vous soulignez. Et ça, c'est précieux lorsqu'on prépare une telle exposition. Dans le cas des fossiles, on a des spécialistes de dinosaures, on a des spécialistes des petits mammifères du Mésozoïque ou du Tertiaire, et on a aussi des spécialistes des crises au cours des temps géologiques. Et parmi eux, Vincent Courtillot, et justement, nous apporte toutes ses compétences et son savoir pour proposer les modèles explicatifs, en particulier les fameuses éruptions volcaniques de la fin du Crétacé qui vont, en Inde, dans cette région du Deccan, la plateforme du Deccan, produire des milliers, des millions de mètres cubes de basalte qui vont s'écouler, bouleverser, en effet, le climat, l'environnement, et agir, avoir des conséquences sur les faunes et les flores de la fin du Crétacé. Donc Vincent Courtillot va nous présenter tout cela avec toute son équipe de l'Institut physique du globe et avec des éléments absolument indubitables, passionnants et nouveaux. Et puis à côté de cela, évidemment, on évoquera les autres écoles de pensée, la météorite auquel on croit moins aujourd'hui. On est plus en faveur de l'idée de ces volcans, encore qu'il y ait des chutes de météorites, tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis, on parlera aussi des refroidissements de la planète, bien sûr, de la compétition entre espèces. Et il y a un autre spécialiste qui participe à l'élaboration de l'exposition, qui est Thierry Haddad, qui est un chercheur suisse extrêmement dynamique et qui a publié dans les grandes revues et dans les revues suisses une version, je dirais, assez consensuelle et intéressante, qui consiste à dire que, au fond, à la fin du Crétacé, contrairement à ce qu'imaginaient les pères et fils Alvarez, qui étaient les partisans en Californie à Berkeley de la fameuse chute de la météorite, qu'il n'y a pas une cause unique de la crise de la fin du Crétacé, qui a d'ailleurs probablement des crises, mais en tout cas la fin du Crétacé, ça n'est pas une cause unique et simple, mais c'est probablement la somme d'une série d'événements successifs qui se déroulent dans un temps relativement bref à l'échelle de l'histoire de la Terre, qui font la crise. Et donc il y a eu des chutes de météorites, probablement, et la grande chute de la fin du Crétacé sur la péninsule du Yucatan au Mexique est un exemple, encore qu'elle ne coïncide probablement pas exactement avec l'exacte limite Crétacé-Tertiaire, suivie par des éruptions volcaniques qui vont se dérouler pendant 300 000 ans, en tout cas un nombre respectable d'années, entraînant une variation climatique et un refroidissement, une régression alors des mers, parce que s'il y a refroidissement, il y a plus de glace au pôle et il y a régression des mers, et donc des bouleversements dans les écosystèmes, accentuant la compétition entre espèces. Et donc, la crise de la fin du Crétacé, c'est la somme de tous ces facteurs qui s'additionnent et qui créent une crise. On peut donc réfléchir aux crises pour regarder notre planète actuelle et essayer d'entrevoir ce que pourrait être la prochaine crise, éventuellement. Et c'est là où les géologues et les paléontologues ont des arguments et des éléments à donner aux hommes qui vivent sur la planète aujourd'hui.
Pour terminer cette émission, restons sur les espèces qui ont su résister face à cette crise. Alors, on l'a bien entendu au cours de cette émission, on vous expliquait à juste titre que ces animaux à sang froid, qui avaient juste des écailles, ne pouvaient pas forcément résister à des basses températures, mais que ceux à plumes pouvaient résister, ce qui pourrait peut-être, mais je vous laisserai parler, expliquer la raison pour laquelle ceux qui avaient des plumes ont perduré ensuite dans le temps. Mais comment expliquer que ces petits mammifères, et certaines espèces également sous-marine, ait résisté à ces conditions climatiques extrêmes.
Alors voilà, l'exposition, là encore, va apporter, je pense, des éléments passionnants qui sont généralement pas traités dans les expos que je connais et qui ont eu lieu ces dernières années. C'est, après la crise, d'abord pendant la crise, avant la crise, pendant la crise, et que se passe-t-il après? Et ça, c'est un élément, un volet absolument passionnant qui va être développé. En effet, les petits mammifères vont profiter de la disparition de l'essentiel de la faune des dinosaures, à l'exception des oiseaux, si l'on peut dire, qui sont des dinosaures à plumes. Mais tous les autres ayant disparu, un grand espace va se trouver disponible pour de nouvelles avancées, en particulier chez les mammifères, mieux adaptés par leur protection thermique, par leur régulation thermique, par leur cerveau développé. Et on va assister au cours du Paléocène et à l'Éocène, c'est-à-dire dans les deux périodes géologiques du début de l'ère Cénozoïque, c'est-à-dire de l'ère tertiaire, il y a 50 millions d'années, à la naissance, au développement et à l'épanouissement de toutes les grandes lignées de mammifères que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, c'est un chapitre passionnant de l'exposition parce que la France et l'Europe est particulièrement riche en gisements du Paléocène, en particulier en France, avec des faunes que le public connaît peu, avec des premiers carnivores primitifs, les ancêtres des éléphants, les ancêtres des baleines, les ancêtres des chauves-souris, et toutes ces familles, dont certaines nous sont très familières, on va assister à leur naissance et à leur épanouissement, et des fossiles formidables, intéressants, nouveaux, certains trouvés depuis longtemps, certains trouvés depuis récemment, mais aussi, par exemple, en particulier, la naissance de la lignée des primates. Et on va présenter les primates anciens du début de l'ère tertiaire, après la crise, comment d'autres familles animales et aussi les flores ont profité de ces changements et de cette crise pour repartir dans une histoire nouvelle et très dynamique.
Dans l'ombre des dinosaures, exposition au Muséum national d'histoire naturelle se déroule du 14 avril 2010 au 11 février 2011. Je redonne également le titre de l'un de vos ouvrages, L'empreinte des dinosaures, réédité plusieurs fois. La dernière édition date de 2001, parue donc chez Odile Jacob. Merci Philippe Tequet pour vos explications toujours passionnantes et je l'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Merci.